Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch rein, zur Krippe her, kommet in Bethlehemstall.
Bienvenue à tous et à toutes. Dans les pays de l'Union européenne, la première préoccupation des citoyens à l'approche de l'élection du Parlement de Strasbourg, c'est le pouvoir d'achat, les questions économiques comme la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. L'immigration n'arrive qu'en septième position dans le sondage Eurobaromètre réalisé par la Commission européenne en février-mars. Ce chiffre varie toutefois beaucoup selon les pays. En Autriche, la gestion de l'immigration est en tête des préoccupations à quasi égalité avec l'avenir de l'Europe. La crise migratoire de 2015 est encore très présente dans les esprits et l'extrême droite, en tête des intentions de vote, prospère sur les difficultés liées à l'intégration des réfugiés et de leurs familles, en allant parfois jusqu'à l'incitation à la haine raciale, comme notre correspondante à Vienne, Céline Béal, l'a constaté dans son reportage.
On manifestait vendredi dernier devant la Mittelschule Kagran contre l'arrivée d'enfants issus de l'immigration. Au nord de Vienne, le collège de 350 élèves accueillera bientôt 250 écoliers supplémentaires de jeunes réfugiés. Ceux-ci auront classe dans des containers installés sur un terrain de sport. La mairie présente ces containers comme une solution. Il y en aura dans 4 autres écoles de la ville, alors que la capitale de 2 millions d'habitants voit, depuis quelques mois, arriver par centaines des enfants de réfugiés au titre du regroupement familial. Mais à Kagran, l'association des parents d'élèves s'oppose catégoriquement au projet. Manuel Kierling et Patrick Wollmuth.
Il nous manque déjà 4 enseignants. Le directeur de l'école fait du bon travail avec son équipe, mais l'école est pleine.
Le regroupement familial, c'est très bien, mais il faut y mettre une limite à un moment, parce que si ce sont nos enfants qui perdent leur terrain de sport à cause de cela, je suis d'avis que cela va trop loin.
Parmi la 60aine de manifestants, le micro passe de main en main, sans filtre, quitte à déraper de manière inadmissible.
Ils n'ont qu'à aller les mettre dans le 10e arrondissement, ou sur l'île du Danube, ou dans le Danube, lesté de pierre. Je rigole, bien sûr.
À part un élu écologiste, personne ne s'offusque de cet appel à la violence. Dans cette manifestation, on compte presque moins de parents que de représentants de partis politiques, dont l'ancien vice-chancelier du pays en personne. Heinz Christian Strache, l'ancien président du parti FPE qui a dû démissionner suite à un scandale le compromettant avec une fausse oligarque russe, essaye de relancer sa carrière au niveau communal. Une journaliste de l'influence semi-tabloïde Die Kronenzeitung a aussi fait le déplacement. La politique s'est bel et bien emparée du sujet. L'immigration est un thème clé lors de ces élections européennes. Judith Kohlenberger, spécialiste des politiques migratoires à l'Université d'économie de Vienne, estime que les politiques eux-mêmes sont les responsables d'une situation dégradée sur le terrain.
L'Autriche est un pays d'immigration classique au moins depuis le début des années 1960. Mais à l'époque, on a longtemps fait comme si ce n'était pas le cas. Cela a causé beaucoup de dégâts en matière de politique d'intégration qui se ressentent particulièrement aujourd'hui. Donc il y a effectivement des problèmes. Mais je dirais quand même que la manière dont on parle de ces thèmes ne correspond pas à la réalité de l'immigration en Autriche.
La réalité, c'est que l'Autriche accueille effectivement beaucoup de réfugiés par rapport à sa population. En 2022, année record, le pays a accueilli 11% des demandeurs d'asile, alors que sa population ne représente que 2% de la population de l'Union européenne. En matière d'éducation, avec un système qui craque, la migration est le coupable idéal.
Dire que la seule raison pour laquelle l'Autriche a, par exemple, de mauvais résultats aux tests éducatifs internationaux malgré les investissements, ou que nous manquons de profs et de places à cause des enfants réfugiés qui arrivent plus nombreux en ce moment, c'est un argument beaucoup trop réducteur.
Mais l'immigration est un thème politiquement porteur pour l'extrême droite et pour la droite. La campagne s'en fait largement l'écho.
Willkommen zurück bei der ersten Elefantenrunde zur EU-Wahl. Wir sind beim Thema Migration.
Le 10 mai, lors d'un débat télévisé en amont des élections européennes, la politique migratoire est le troisième sujet abordé. Reinhold Lopatka, tête de liste du Parti chrétien-démocrate qui est au pouvoir, se saisit de la question du rassemblement familial.
Nous devons pouvoir contrôler qui vient chez nous. C'est pour cela que nous voulons des tests ADN pour le regroupement familial, pour qu'il n'y ait pas d'abus.
Une mesure surtout symbolique, critiquent les observateurs. La droite tente de contrer la montée de l'extrême droite avec une attitude toujours plus dure face aux demandeurs d'asile. Cette stratégie est-elle efficace ? Pas sûr, puisque l'extrême droite occupe la tête des sondages depuis des mois.
Trois ans après le début de la guerre en Ukraine, les Européens sont de plus en plus Kriegstüchtig, y compris les Allemands. Kriegstüchtig, ça signifie être prêt à la guerre, dans la langue de Goethe. La tension est omniprésente entre augmentation des budgets militaires et préparation civile dans les pays du flanc Est. Et en Allemagne, cette expression « être prêt à la guerre » suscite depuis six mois de vives polémiques. Suite à la Seconde Guerre mondiale, le pays a été un champion du pacifisme. Alors, doit-il devenir Kriegstüchtig ? Élément de réponse dans la chronique en un mot de notre correspondante Delphine Herbollier.
Nous sommes le 11 novembre 2023. En ce jour de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, tient un discours devant les représentants des forces armées. Et c'est au milieu de son discours qu'il a lâché ce mot « Kriegstüchtig ».
La guerre est de retour en Europe. L'Allemagne et ses alliés sont confrontés à une nouvelle situation de menace. Nous devons être prêts à la guerre. Je sais que cela sonne dur, je sais que cela sonne inhabituel et que cela effraie. Je ne le dis pas de manière irréfléchie, mais de manière très réfléchie et sans légèreté. C'est un changement d'époque qui marque un tournant pour notre société.
Être prêt à la guerre, en Allemagne, ces accents militaristes appellent de mauvais souvenirs. Après des décennies de baisse du budget de la défense, cette petite phrase a donc sans surprise fait l'effet d'une petite bombe. Dans les jours qui ont suivi, Boris Pistorius, un social-démocrate peu habitué à jouer les va-t-en-guerre, s'est plusieurs fois expliqué.
Ce mot « Kriegstüchtig », prêt à la guerre, je l'ai employé pour dire qu'on doit pouvoir mener une guerre, mais sans être le meneur. On parle ici du vieux principe de dissuasion, je le rappelle. Je reste le ministre de la Défense. Une guerre offensive reste interdite, Dieu merci, par notre Constitution.
Il s'agit pour Boris Pistorius d'être prêt à se défendre, de se préparer au pire et notamment à la menace russe. L'Allemagne a ouvert les yeux et est sortie d'une certaine forme de naïveté depuis la guerre en Ukraine. C'est ce que lançait récemment l'historien et spécialiste de l'armée allemande, Sönke Neitzel, sur la chaîne de télévision Phoenix.
Depuis les années 90, l'Allemagne avec d'autres pays européens sont les champions du monde pour faire croire que le monde est beau. Nous en payons le prix aujourd'hui. Je pense donc que le ministre a raison de parler ainsi. Il faut être honnête et crédible. Il faut accepter la réalité. Nous vivons malheureusement une période de guerre. Nous devons être prêts à nous défendre et prêts à la guerre.
La petite phrase de Boris Pistorius est aussi un demi-aveu d'échec. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a plus de deux ans, le chancelier Olaf Scholz avait annoncé un changement d'époque et une hausse massive des dépenses militaires. 100 milliards d'euros de fonds spéciaux ont été validés pour mettre la Bundeswehr à niveau. Mais force est de constater que l'Allemagne part de très loin. L'armée manque de personnel, de matériel, d'armes, parfois même de bottes. Si une large partie de la classe politique soutient l'idée de renforcer l'armée allemande, les partis les plus à gauche sont très critiques envers une préparation à la guerre. Exemple avec la députée Sarah Wagenknecht.
Je ne pense pas du tout que nous devons nous préparer à la guerre. Au contraire, je pense que nous devons tout faire pour empêcher la guerre. Mais bien sûr, nous avons besoin d'une Bundeswehr qui soit capable de nous défendre. C'est sa mission, inscrite dans la Constitution, et nous devrions plutôt regarder où va l'argent.
L'usage du terme « Kriegstüchtig » a aussi accéléré le débat autour du retour de la conscription, aboli en 2011 par la chancelière conservatrice Angela Merkel. Selon un récent sondage, 63% des Allemands seraient favorables au retour du service militaire, un chiffre qui chute drastiquement chez les premiers concernés, les jeunes. Parmi les 18-29 ans, 59% y sont opposés. À l'image de ce jeune Berlinois, il a 15 ans.
Personnellement, je ne voudrais pas faire le service militaire. Je pense qu'il y a assez de jeunes intéressés, mais pas moi.
Plus largement, c'est l'idée d'un service civil qui refait surface, pas seulement orienté vers l'armée, mais pour recréer du lien entre l'État et les jeunes. Rencontrée lors d'une réunion à Berlin, la députée Eva Högel, chargée des relations entre le Parlement et la Bundeswehr, y est plutôt favorable. Pour elle, au-delà de se préparer à la guerre, il faut que les Allemands soient prêts à défendre la démocratie.
Je préfère parler d'une démocratie qui se défend, parce que je trouve le concept plus global. Protéger, assurer et défendre la paix, la liberté et notre démocratie, cela ne concerne pas uniquement la Bundeswehr. J'y vois la mission de chaque citoyen et chaque citoyenne. Le ministre parle d'être prêt à la guerre. Je préfère dire que nous avons besoin d'une Bundeswehr opérationnelle et d'une démocratie capable de se défendre.
Défendre la démocratie et la paix, ces slogans se retrouvent sur de très nombreux panneaux électoraux à l'approche des élections européennes. Et cela, toutes tendances politiques confondues.
Ancienne République soviétique, la Moldavie est devenue le pays le plus pauvre d'Europe à la chute de l'URSS, et elle l'est encore. Son PIB par habitant atteint juste 29% de la moyenne européenne. Désormais candidat à l'entrée dans l'Union européenne, le pays a signé un accord d'association avec les 27 en 2014, ce qui a permis d'accélérer son développement. Mais le passage à une économie tournée vers l'Europe se fait dans la douleur. Et le petit territoire d'environ 2,5 millions d'habitants, qui est situé entre l'Ukraine et la Roumanie, s'est vidé d'une grande partie de sa population. Aujourd'hui, la Moldavie peine à attirer les investisseurs et surtout à retenir ses jeunes diplômés. C'est un reportage de Frédéric Lebel.
C'est sur une des grandes artères de la capitale Chisinau qu'Olivier Prado a installé les locaux de sa société de call center. C'était il y a 20 ans. La Moldavie semblait alors un territoire idéal pour recruter de jeunes étudiants multilingues et les former à la gestion des appels clients de grandes sociétés européennes.
Ils sont surtout extrêmement doués en langue. Donc au départ, ils sont toujours bilingues en principe, hein, entre le roumain et le russe. Et la plupart du temps, ils en connaissent une troisième, voire une quatrième, de manière tout à fait compétente. Hein. Donc, à l'époque, on parlait plutôt le français, puisque quand même la Moldavie est membre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, je dirais que la plupart apprennent l'anglais plutôt que le français, malheureusement, c'est comme ça. Mais ils sont très doués pour les langues, et puis ils sont souvent très compétents. Alors bien entendu, on les forme au métier. Ça, c'est mon métier depuis 20 ans. Et d'ailleurs, beaucoup, après, vont à l'étranger et ont beaucoup de succès, que ce soit au Québec, en France ou dans d'autres pays.
Aujourd'hui, sa société emploie 150 personnes, mais le recrutement est de plus en plus difficile. Un tiers de la population est parti travailler à l'étranger, principalement en Europe.
Quand je suis arrivé en 2004, les gens n'avaient pas beaucoup de choix. Soit ils devenaient professeurs, soit ils venaient travailler chez nous. Et donc, c'était pour nous confortable. Aujourd'hui, le choix, c'est plutôt rester ou pas rester en Moldavie. Et souvent, ils ont le sentiment que l'herbe est plus verte ailleurs, que c'est mieux d'aller ailleurs, qu'ils vont gagner plus, ce qui, à mon avis, est discutable. Les salaires augmentant de manière significative, ils peuvent se faire très facilement 800-900 euros net en Moldavie. Et personnellement, je pense qu'on vit mieux à Chisinau avec 900 euros qu'avec un SMIC à Paris.
Et ils écoutent ça ?
Malheureusement, pas assez.
Les rémunérations ont en effet grimpé en flèche. Le salaire moyen, qui était de 200 euros par mois en 2014, a plus que triplé pour atteindre 740 euros aujourd'hui. Mais il en faudrait plus pour freiner la fuite des plus diplômés. Au siège de GPG Call Center, on parle russe, ukrainien, italien, allemand, anglais. Tatiana travaille en français sur la veille média de plusieurs grands groupes. Voilà 10 ans qu'elle a intégré l'équipe. Une exception parmi ses anciennes camarades de lycée.
On était 27 copains de lycée et la plupart d'entre eux, ils sont partis à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Et on peut compter quelques qui sont restés, 7, 10. Le reste, ils sont partis. Et ils retournent seulement dans les vacances. Ils vont aller voir ses parents, ses proches, comme ça.
Selon les sondages, 40% des 18-35 ans veulent aller travailler à l'étranger. À la faculté, Andrea, 21 ans, est en troisième année de psychologie. Son avenir, elle le voit ailleurs qu'en Moldavie.
La famille de ma sœur vit en Espagne, elle a deux enfants. Son mari travaille dans le bâtiment. En plus de ma sœur, j'ai beaucoup de cousins en Espagne. Si on parle de ma famille élargie, il y a au moins 20 à 30 personnes. Ça fait 5 ans qu'ils sont installés et ils vivent beaucoup mieux en Espagne. Leurs enfants vont dans une bonne école. C'est sûr que la vie est meilleure et les salaires plus satisfaisants.
Pour l'économiste Veselav Ionitsa, les salaires ne sont pas les seuls critères en jeu. Si les jeunes diplômés partent, c'est surtout en raison de la faiblesse des services publics et de l'administration.
Les Moldaves qui touchent des bons salaires ont une très mauvaise image de la Moldavie et de la qualité de la vie ici. Ils critiquent la mauvaise qualité des routes, mais aussi de l'éducation, l'accès aux soins de santé et puis le manque de fiabilité de la gouvernance, toute l'infrastructure publique. C'est pour ça qu'autant de jeunes qualifiés veulent quitter le pays.
Les expatriés sont toujours un rouage essentiel de l'économie. Les envois d'argent de la diaspora représentent encore 12% du PIB. En 2014, l'accord d'association avec l'Europe n'a fait qu'amplifier le mouvement. On peut espérer qu'à plus long terme, la croissance économique devienne plus attractive pour les Moldaves, mais ça ne sera pas pour tout de suite.
L'économie de notre pays traîne un héritage de l'Union soviétique qui est complètement obsolète aujourd'hui. Nous sommes en train de construire la nouvelle économie, mais le problème, c'est que la Moldavie attire très peu d'investissements étrangers. Ça avait démarré après 2009, lorsque la Moldavie avait déclaré son orientation pro-européenne. Mais malheureusement, la guerre en Ukraine a tout stoppé, car les gens sont inquiets.
Aujourd'hui, le PIB n'a toujours pas rattrapé le niveau des années 90, de quoi nourrir le pessimisme et l'envie de partir.
Et nous poursuivons notre tour de la planète pour savoir comment les citoyens du monde perçoivent les Européens. Aujourd'hui, nous allons au Mexique à la rencontre d'Annie, une jeune militante qui défend les droits des femmes et en particulier l'accès à l'avortement.
Une image qui me vient à l'esprit lorsque l'on parle de l'Europe, c'est celle d'une personne avec les yeux bandés qui ne regarde pas souvent par ici. Quand vous ne regardez jamais ailleurs, vers d'autres réalités, la vôtre vous semble très bien, alors qu'il existe d'autres perspectives.
Je m'appelle Anna Victoria. Je suis activiste dans un collectif indépendant, ici au Mexique. Nous accompagnons des avortements clandestins. Depuis quelque temps, nous sommes en contact avec l'Europe parce que des militantes sont venues nous chercher. Elles nous disent que malgré les avancées législatives, concrètement, quand il s'agit d'avorter, il y a plusieurs barrières qui empêchent les femmes de le faire. Et ce qui me semble très curieux, c'est qu'en général, quand on évoque les statistiques sur l'avortement, on imagine que l'Europe est très en avance. Il y aurait davantage d'informations, des lieux dédiés, un accès plus facile. Et l'avortement, clandestin ou pas, ne serait plus un sujet de discussion. Que ce ne serait plus un problème pour les Européennes grâce à une santé sexuelle beaucoup plus libre. Mais après, on reçoit des messages de femmes qui veulent avorter et qui nous disent que ce n'est pas vrai. Alors on regarde la situation là-bas et on regarde la nôtre et puis on se dit qu'en réalité, elles sont très similaires.
Un témoignage recueilli par notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval, à retrouver quand vous voulez dans le podcast d'Accent d'Europe sur RFI.fr et sur l'appli Pure Radio. Françoise Grelot a réalisé cette émission. Restez à l'écoute, l'info continue sur la Radio du Monde.